Les conférences du Collège de France.
Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette troisième conférence sur environnement et société en Mésopotamie. Aujourd'hui, nous allons aborder un aspect de l'histoire environnementale qui, bien au-delà de l'histoire mésopotamienne, a fait couler beaucoup d'encre depuis un peu plus d'une décennie. Je veux bien sûr parler du rapport entre changement climatique et changement social, qu'il soit perçu de façon positive ou, de plus en plus souvent, négative. Pour ce faire, il convient d'adresser en détail ce que je nomme ici le paradigme climatique, c'est-à-dire un discours issu du monde académique, mais qui se répand aujourd'hui largement hors de la Tour d'Ivoire, selon lequel le climat, et particulièrement ses changements abrupts, ont de tout temps été l'un des, sinon même le facteur déterminant du changement social. Un premier point à noter est que ce paradigme n'est pas, loin s'en faut, limité aux études sur le Proche-Orient ancien. Je suis assez prêt à parier que tous dans le public avaient au moins une fois dans votre vie été confrontés à des titres de journaux ou de sites internet du genre de ceux présents à l'écran. Virtuellement tous les peuples ont un jour ou l'autre vu leur histoire présentée sous l'angle d'une adaptation réussie, ou plus souvent ratée, au changement climatique. Naturellement, ce n'est pas un hasard si ces études se sont développées en parallèle avec la prise de conscience croissante du changement climatique d'origine anthropique, suite à la création du GIEC et à la publication de son premier rapport au tournant des années 1990. Comme toujours, les questions que nous nous posons sur le passé sont informées par les priorités du présent, et nombre de ces études reflètent implicitement ou explicitement un désir de chercher de potentiels parallèles entre le passé et notre futur. Un simple coup d'œil à ces titres montre en effet que si dans de rares cas, comme ici l'Empire mongol sous Genghis Khan, le climat est vu comme un facteur d'expansion pour un groupe donné, la plupart du temps, y compris pour les mêmes Mongols, ici au temps du fils de Genghis Khan, Ögedai, il est plutôt perçu comme une source de problème, voire comme la cause première de l'effondrement d'une civilisation, quoi que l'on mette derrière ce terme, mais ça, c'est une question pour un autre jour. Et regardez de plus près, le paradigme climatique apparaît comme l'une des deux faces d'un paradigme plus large, qui cherche à relier, de façon quasiment mécanique, changement environnemental et changements sociaux. L'un, dominant jusque dans les années 2000, met l'accent sur les effets de l'action humaine sur l'environnement, empruntant ses modèles à l'écologie, couplé avec une approche néo-malthusienne qui voit les sociétés outrepasser les capacités de leur environnement jusqu'à l'épuisement des ressources, puis l'effondrement. Dans ce modèle, le changement climatique n'est qu'une variable parmi d'autres, susceptible de pousser les sociétés à la rupture, mais il n'est pas le facteur principal. C'est le modèle illustré ici par l'article sur l'île de Pâques, qui sous-tendait l'ouvrage de Jared Diamond, dont vous avez sans doute entendu parler, « Effondrement », populaire dans les années 90, et qui continue d'influencer des discours de type collapsologie, même s'ils sont largement discrédités chez les spécialistes, mais qui restent populaires au-delà. Le paradigme climatique, quant à lui, inverse les responsabilités et fait du changement climatique un acteur à part entière de l'histoire, si ce n'est l'acteur principal, reléguant les sociétés au rang passif de spectatrices ou de victimes. C'est, on le voit, la tonalité qui domine dans les articles écrits depuis les années 2010, et cela continue de nos jours. L'Antiquité proche-orientale fit en fait figure de pionnière du paradigme climatique, quand, à l'orée des années 90, l'équipe en charge des fouilles de Tel Leilian, dans la Jésirée syrienne, émit l'hypothèse qu'une vaste sécheresse avait été à l'origine du déclin des sites de l'âge du bronze ancien en Mésopotamie. C'est de cette étude que rendait compte l'article de l'Humanité qui est à l'écran, même si le journaliste est en l'occurrence quelque peu embrouillé, puisque la Babylone dont il est ici question est l'Empire d'Akkad, dont la chute précède de près d'un demi-millénaire l'affirmation de Babylone comme capitale régionale. Ça, c'est un autre problème. Ce paradigme a, en tout cas, depuis gagné en popularité, étant appliqué aussi bien à la fin de l'âge du bronze qu'à celle de l'Empire assyrien, avec pour ce dernier plus récemment une approche qui intègre aussi le climat comme facteur explicatif de son expansion et pas seulement de sa chute. Bien sûr, les études académiques sont souvent un peu plus nuancées que ce que les médias laissent transparaître. Mais il est notable que parmi les articles à l'écran, Deux ont été rédigés non pas par des journalistes vulgarisateurs, mais par les auteurs des études en personne. C'est le cas de l'article d'Eric Klein pour le New York Times. Certains d'entre vous auront peut-être reconnu la référence à son livre 1177 avant J.C., le jour où la civilisation s'est effondrée il y a une petite dizaine d'années maintenant. Mais aussi l'article pour The Conversation d'Ashish Sinha et Gayatri Katayat. Ma collègue de Chicago, Katie Kearns, qui a proposé de nommer ce type d'approche « clickbait climate history », l'histoire climatique pour faire du clic, je peine à trouver un équivalent français aussi efficace. Donc Katie souligne à juste titre que le problème va bien au-delà du simple aspect promotionnel de la recherche. Dans la mesure où un discours qui lie de façon quasi mécanique changement climatique et changement social, mais pas seulement la quasi-certitude pour les chercheurs de donner à leurs travaux une visibilité rarement offerte aux spécialistes de l'Antiquité, surtout de l'Antiquité non classique, mais aussi, de plus en plus, la condition sine qua non pour voir leurs demandes de financement acceptées et leurs articles publiés dans des revues prestigieuses comme Science, Nature ou PNES. Comme l'a rappelé Mike Hulme, les études portant sur le rôle du climat dans l'histoire humaine doivent toujours éviter deux écueils. Le déterminisme climatique, d'une part, qui fait du climat le principal, voire l'unique, facteur déterminant des caractères sociaux, voire individuels, d'un groupe humain donné, selon une tradition qui remonte à l'Antiquité gréco-latine, aujourd'hui largement discréditée, mais qui avait encore de nombreux partisans dans la première moitié du XXe siècle, chez des géographes comme Ellsworth Huntington, Ellen Temple ou Friedrich Ratzel. L'autre écueil est celui que Hulme appelle l'indéterminisme climatique, qui relègue le climat à une note de bas de page dans les affaires humaines et le prive de tout pouvoir explicatif. Ça, c'était la forme dominante chez les anthropologues et les historiens de la deuxième moitié du XXe siècle, en grande part en réaction aux excès des précédents. Le paradigme climatique, tel qu'il se développe depuis une trentaine d'années, peut pour sa part être considéré comme une forme de réductionnisme climatique, c'est-à-dire une variante moins radicale du déterminisme climatique qui isole le climat comme facteur causal principal, ou du moins uniquement significatif, parmi l'ensemble des éléments interdépendants qui façonnent les interactions entre société et environnement. Même s'il peut paraître réducteur, ou plutôt particulièrement parce qu'il est réducteur et donc facile à vendre, le paradigme climatique est donc un produit éminemment actuel de la façon dont la recherche se fait dans le contexte du publish or perish et du financement de court terme, où la lisibilité du projet est une priorité autant pour toucher un large public que pour convaincre des financeurs, souvent peu au fait des subtilités de chaque champ disciplinaire. Ma démarche, que je partage avec d'autres collègues, dont Cathy, qui travaillait sur Chypre à l'époque archaïque, préconise à l'inverse de promouvoir une approche plus nuancée, qui rende compte de l'agentivité des sociétés anciennes dans leur interaction avec leur environnement à différentes échelles, mais aussi des dynamiques internes à ces sociétés, des tensions entre groupes et des perspectives parfois opposées qui pouvaient affecter les prises de décision. Il ne s'agit pas de distribuer les bons et les mauvais points pour savoir comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie, pour reprendre le sous-titre assez malheureux de l'ouvrage de Jared Diamond, Effondrement, mais plutôt de saisir la spécificité historique de chaque cas particulier, loin des généralisations et des simplifications trop rapides. Même si elle est moins susceptible d'attirer les financements et de nourrir les gros titres, une telle approche me paraît plus respectueuse de la réalité complexe des relations entre sociétés et environnements, mais aussi de la façon dont la nature interdisciplinaire même du projet façonne son objet. C'est à la fois un problème historique et historiographique. Un premier exemple sur lequel je souhaite revenir aujourd'hui est celui par lequel le paradigme climatique fit son retour en force dans le discours archéologique sur la Mésopotamie grâce aux travaux de Harvey Weiss et son équipe de Tel Leilan dans les années 90 pour expliquer un dépeuplement massif observé sur le site et ses environs vers la fin de l'âge du bronze ancien, donc dans les derniers siècles du troisième millénaire avant notre ère. L'hypothèse originale d'une éruption volcanique portée par Weiss et Marie-Agnès Courty dans l'article pionnier publié par Science en 1993, a depuis été abandonnée au profit d'un de ces épisodes de changement climatique rapide que j'ai mentionné en première semaine, généralement connu sous le nom, pas très glamour, d'événement 4.2K, pour 4.2 kiloannées avant le présent, soit grossièrement 2200 avant notre ère. Cet épisode, identifié dans plusieurs archives climatiques de l'hémisphère nord, a été causé par un affaiblissement des vents d'ouest issus de l'océan Atlantique, avec pour conséquence une aridification relativement brutale du climat méditerranéen, et donc par extension, si vous vous rappelez ce qu'on a vu en première semaine, de celui de la Mésopotamie, mais aussi, de façon encore mal comprise, de la mousson de l'océan Indien. Le résultat, en ce qui nous concerne, fut une aridification assez rapide du climat, que Weiss a proposé de nommer une méga-sécheresse, qui aurait duré environ 300 ans, avant un retour à la normale autour de 1900. Même si la nature de l'épisode climatique a changé, le cœur de l'argument est resté sensiblement le même depuis les années 90. L'épisode aride coïnciderait avec les dernières décennies du royaume d'Akkad, lequel avait alors atteint son expansion maximale avec la conquête par Naram-Sin de la haute Mésopotamie, et marquerait un retournement de trajectoire drastique sous Shar-Kalishari, qui aurait par la suite entraîné l'effondrement du royaume d'Akkad. Donc, voici la dynastie d'Akkad, le cœur de l'argument par Weiss, et la carte depuis Akkad, l'expansion en haute Mésopotamie. Ignorez les dates, elles sont sur l'arbre généalogique, elles sont fausses, nous y reviendrons. Au cœur de l'argumentation de Weiss et de ses collègues se trouve donc une aridification brutale du climat qui aurait entraîné la chute de la production agraire en haute Mésopotamie, région, on l'a vu, de cultures sous pluie, mais aussi l'abandon massif des sites du plateau au profit de refuges le long des cours d'eau pérennes, comme l'Euphrate et le Rabour, et par effet de domino, l'effondrement de l'empire d'Akkad. Ce collapse, qui ne serait qu'un exemple parmi d'autres, aurait permis l'implantation de populations non sédentaires vivant de l'élevage, les Amorites, qui dominent la haute Mésopotamie lorsque les sources archéologiques et textuelles redeviennent abondantes autour de 1900. Voilà le cœur de l'argumentaire. Alors, au risque de vous décevoir, je veux évacuer sans plus de cérémonie la question de savoir si la sécheresse observée en haute Mésopotamie aurait pu causer la chute d'Akkad, parce que la théorie de l'agro-impérialisation du Nord par le Sud ne repose que sur des bases archéologiques et textuelles bien trop ténues pour que l'on puisse réellement en tirer la moindre conclusion. Comme l'a noté Jason Ehr, hormis la présence à Nagar, Tel Brak, d'un large bâtiment administratif peut-être inachevé, datant du règne de Naram-Sin, les traces archéologiques de la présence akkadienne dans le Nord sont plus ou moins inexistantes. De même, les deux textes cités par Weiss à l'appui de son hypothèse, qui sont ici à l'écran, sont on ne peut plus opaques, et il n'est pas du tout clair que cela témoigne d'une politique d'importation de grains depuis le plateau de Djezire vers la plaine alluviale, comme ils le suggèrent. Tout ce qu'ils nous disent, c'est que des quantités importantes de grains étaient mesurées en divers endroits, comme Sippar, en Babylonie du Nord, Lagal-Suen, un lieu par ailleurs inconnu, ça c'est pour le premier texte, mais aussi à El-Shoum, même si là on ne sait même pas à quoi 160 fait référence en termes de quantité. Donc El-Shoum, un terme là encore inconnu par ailleurs, sur une bulle d'argile qui a été retrouvée à Shagar-Bazar, en Mésopotamie du Nord. Donc la base textuelle pour l'idée que les Akkadiens ont agro-impérialisé la Mésopotamie du Nord, elle est extrêmement, extrêmement faible. Comme l'a récemment souligné Piotr Mikhalovski, auquel je vous renvoie si vous êtes intéressé pour plus de détails, puisqu'il a fait une synthèse sur la période, ce scénario concernant la chute d'Akkad est au final assez peu crédible. Rien dans l'importante production textuelle de basse Mésopotamie sous Naram-Sin et Shar-Kalishari ne vient l'étayer. Mikhalovski suggère même que la Nagar du premier texte n'est pas la grande ville du Nord Tel Brak, mais une bourgade proche de Sippar, mais ça aussi c'est complètement spéculatif. En réalité, nous ne savons plus ou moins rien des liens qui ont pu exister ou non entre le royaume d'Akkad et le triangle du Rabour, où se trouve Tel Leilan. Donc, tant pis pour Akkad, même si ça vend mieux que simplement la haute Mésopotamie. Ce qui m'intéresse, moi, dans le cadre de ce cours sur le paradigme climatique, c'est comment les choses peuvent être analysées au niveau local ou régional. Et ce que cela nous dit sur la façon dont climat et changement social peuvent être corrélés, et dans quelle mesure il convient de rester prudent. La région du triangle du Rabour a fait l'objet de plusieurs prospections intensives, ce qui nous offre une vision assez complète des dynamiques de peuplement du troisième millénaire. Et il est indéniable qu'autour de Leilan, la période qui suit les campagnes akkadiennes est marquée par un abandon assez spectaculaire. Ça, c'est le nombre d'hectares occupés par les sites dans le survey de Leyland et de son arrière-pays immédiat. On voit bien la chute drastique. La situation est cependant plus complexe lorsque l'on dézoome pour s'attacher à l'échelle régionale, où un phénomène global de désurbanisation est notable vers la fin du bronze ancien, mais avec de très nombreuses variantes locales. D'un côté, la persistance de l'habitat, ici en vert, près des cours d'eau pérennes, donne de l'épaisseur à l'hypothèse de Weiss, selon laquelle les sites disposant d'un meilleur accès à l'eau, c'est aussi le cas pour les sites situés au-delà des 400 mm de l'isoyette actuelle, donc meilleur accès à l'eau, qu'elle soit de surface ou atmosphérique, ont été mieux positionnés pour s'adapter à une période de sécheresse que les sites de la Djésirée, qui même de nos jours se trouvent à la limite entre la zone des cultures sous pluie et la zone des cultures marginales. D'un autre côté, il est clair que dans un même espace, comme celui du triangle du Rabourg dont nous venons de parler et où se trouve Leyland, les trajectoires locales ont pu diverger grandement. Et le fait que certains sites localisés près du Rabourg, donc de la rivière, ici en rouge, aient été abandonnés quand d'autres, sur le plateau, maintenaient une forme d'habitat, suggère qu'il y a pu y avoir d'autres facteurs en jeu que la seule influence du changement climatique, comme des bouleversements sociaux, des guerres, etc. Les guerres en témoignent d'ailleurs quelques exemples de destruction brutale, en jaune sur la carte, même si ceux-ci sont en général associés aux campagnes acadiennes, donc un peu plus anciens que l'épisode que Harvey Weiss essaye de trouver dans la région. Dans quelle mesure, dès lors, est-il possible de relier le changement climatique enregistré dans les archives climatiques et le changement social attesté par l'archéologie ? Pour comprendre cela, il faut faire un détour méthodologique que je vais tenter de ne pas rendre plus technique qu'il n'est nécessaire. D'une manière générale, les archives climatiques s'attachent à la très longue durée, sur des dizaines, voire des centaines de milliers d'années. Il existe plusieurs méthodes pour dater une archive climatique, en fonction de sa nature, mais pour des raisons pratiques et de coût, seuls quelques points de la séquence sont datés par ces méthodes, et les points intermédiaires sont extrapolés de façon statistique, avec plus ou moins de précision. Parfois, un même point d'une archive climatique peut couvrir plusieurs dizaines, voire centaines d'années, ce qui la rend virtuellement inutile pour une étude historique. Certaines méthodes de datation ont une résolution assez élevée, de l'ordre de la décennie ou du groupe d'années, mais elles sont rares en Mésopotamie. La datation dendrochronologique, par exemple, est limitée par la rareté des arbres indigènes, et les archives environnementales trouvées dans des contextes archéologiques, comme les charbons de bois ou les restes de plantes, n'offrent pas la perspective diachronique nécessaire pour évaluer le changement climatique au cours du temps. La méthode de datation la plus courante, par radiocarbone, est par ailleurs presque toujours problématique. Si la décomposition de l'isotope du carbone 14 qui permet de dater les résidus organiques se fait à un rythme constant, la teneur en carbone de l'atmosphère a quant à elle changé au cours du temps, ce qui change la valeur que l'on peut retrouver dans l'analyse du radiocarbone. Ce qui fait qu'une même date produite par l'analyse isotopique peut correspondre à différentes dates absolues, en particulier pour les échantillons vieux de plus de 2500 ans, qui sont ceux qui nous intéressent dans le cadre de ce travail. Grâce à la dendrochronologie pour les périodes récentes et à d'autres méthodes pour les très hautes époques, des courbes de calibration, comme celle ici à l'écran, permettent de relier les deux types de dates avec des marges de certitude plus ou moins grandes selon les échantillons. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et avant ça, une des difficultés en ce qui nous concerne est que les facteurs qui influencent le changement climatique, en particulier lorsque l'on va vers plus d'aridité, affectent également la teneur en CO2 de l'atmosphère. C'est pourquoi les épisodes de changement climatique rapides que l'on retrouve dans les archives climatiques correspondent toujours à des plateaux dans la courbe de calibration, comme ce que l'on voit ici à l'écran, ce qui rend difficile, voire impossible, une datation avec une précision pertinente à l'échelle historique. Par exemple, sur les exemples donnés par Sturt Manning dans son article, si vous voulez vraiment comprendre les détails, l'article de Sturt est vraiment très très bien, on peut voir que ça, c'est la date radiocarbone que le labo renvoie après analyse de votre échantillon. Elle est elle-même déjà offerte avec une marge d'erreur de 60 ans pour une probabilité de 68%. Donc on est déjà dans une certaine flexibilité. Mais dans le cas d'un des plateaux, qui va être ce qui nous concerne systématiquement lorsqu'on a des climats qui deviennent plus arides, on peut avoir un même point de la courbe qui correspond à plein d'intersections sur la courbe de calibration. Donc, la date renvoyée par le labo ici en abscisse, en ordonnée, correspond à une série de dates beaucoup plus floues, de l'ordre de plusieurs centaines d'années, ici sur le graphe en abscisse. Une autre difficulté est que même pour les changements climatiques attestés à l'échelle du globe, les effets susceptibles d'affecter les sociétés humaines se jouent, eux, à l'échelle régionale, voire locale. Et qu'au sein d'une même zone climatique, ces effets peuvent suivre des tendances très diverses, voire contradictoires. Cela est particulièrement vrai du climat méditerranéen, où il a pu être mis en évidence qu'un même épisode climatique, reconnu à l'échelle du globe dans des archives climatiques comme les sondages des calottes glaciaires, peut se traduire par des conditions soit plus arides, soit plus humides, selon les lieux, les régions. Avec une opposition non seulement entre, d'un côté, la Méditerranée orientale et de l'autre, la Méditerranée occidentale, mais aussi au sein même de ces régions. Vous voyez ici, bon, c'est un épisode plus ancien, 4900 avant le présent, mais vous voyez que dans l'étude, la macro et la méta-étude faite par Finet et ses collègues, on voit bien que pour un épisode reconnu de la courbe climatique, selon les archives climatiques locales, même au sein de la Méditerranée orientale, certaines régions, certaines archives climatiques marquent une tendance accrue vers l'aridité, quand des archives proches marquent une tendance accrue vers une plus grande humidité. Ça veut dire que, et ça on le voit bien avec le changement climatique contemporain, ce qui va affecter les sociétés anciennes, c'est pas la tendance générale, c'est la façon dont elle se traduit régionalement et localement. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à évaluer. Alors, c'est particulièrement problématique pour la Mésopotamie, qui jusqu'à très récemment ne disposait pas d'archives locales fiables, et pour laquelle la plupart des études antérieures à 2018, et même certaines publiées depuis, s'appuient sur des archives climatiques souvent de très basse résolution, provenant d'autres régions, dont rien n'indique qu'elles soient pertinentes pour notre propos. Fort heureusement, les choses ont commencé à changer depuis la publication de deux spéléothèmes, c'est-à-dire des stalagmites, à très haute résolution. L'un provient de la grotte de Gol Ezard, sur le plateau iranien, l'autre de la grotte de Kunaba, dans le Kurdistan irakien. Tous deux sont datés par la méthode uranium-thorium. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est une autre méthode reposant sur la désintégration isotopique, mais qui est indépendante de la teneur en CO2 atmosphérique, à la différence du radiocarbone, donc ça évite les problèmes qu'on a vus avec la courbe de calibration. La première archive couvre une période entre environ 3200 et 1700 avant notre ère, ici, et l'avantage, c'est que ces archives ont une forte densité de datation absolue par la méthode uranium-thorium, donc on limite aussi les problèmes liés à l'extrapolation des périodes qui ne sont pas datées dans la séquence. Donc la première archive couvre une période entre environ 3200 et 1700 avant notre ère, et la seconde entre environ 2000 avant notre ère et le présent, le début des années 2000. La résolution temporelle est relativement élevée dans les deux cas, entre 2 et 10-15 ans selon les portions des séquences, avec une incertitude temporelle d'environ 25-30 ans. Donc on n'est évidemment pas à l'année près, mais on arrive à des niveaux de précision qui commencent à faire sens par rapport à des points sur la courbe qui seraient de 100, 200, 300 ans, commence à faire sens pour l'analyse historique. Un ou deux enregistrements ne suffisent pas pour obtenir des réponses définitives, d'autant plus que ces deux archives ne se chevauchent que sur une partie très limitée de leur plage chronologique respective, ce qui limite les possibilités de comparaison. Elles constituent néanmoins des proxys crédibles du climat de la haute Mésopotamie au cours des 5000 dernières années, ce qui signifie que des analyses fines des interactions entre le climat et les sociétés de la région sont désormais à portée de main, même si pour l'instant les résultats doivent être considérés comme provisoires. Mais par rapport à la situation dans laquelle on était il y a même encore 10 ans, on a fait d'énormes progrès dans nos données paléoclimatiques. Peut-on dès lors poser un lien de causalité direct entre l'épisode climatique rapide de l'événement 4.2K et l'abandon de sites repérés dans la prospection de Tell Leilan et en d'autres endroits du triangle du Rabour. Si l'on en croit les auteurs, donc Stacy Caroline et ses collègues, de l'auteur de l'étude de 2008, oui, sans hésitation. C'est même ce qu'ils ont décidé de mettre en avant dans le titre de leur étude, pour les raisons que j'expliquais en début de cours. Pourtant, y regarder de plus près, les choses ne sont pas aussi simples. D'après le spéléothème de Gol-Ezard, l'épisode aride brutal aurait commencé quelque part entre 2316 et 2244, tandis que les dates radiocarbone à haute résolution pour Tell Leilan placent la chute drastique du nombre de sites entre 2230 et 2200, et l'abandon complet de la région dans les siècles suivants. Donc nominalement, le scénario d'un abandon de la région dû au changement climatique est crédible, mais seulement si celui-ci eut lieu dans les dernières décennies de la plage chronologique offerte par la datation à l'uranium-thorium. Si au contraire, la date la plus haute devait être retenue, alors la corrélation entre les deux événements, plus de 150 ans, deviendrait bien lâche et le lien causal sujet à caution. Bien sûr, l'exercice a ses limites, dans la mesure où les dates absolues de l'archive climatique et celles de la séquence archéologique reposent sur des méthodes différentes. Uranium-thorium d'un côté, radiocarbone de l'autre, dont la compatibilité reste difficile, voire impossible à établir. Les choses se compliquent encore lorsque l'on essaie de synchroniser ces deux jeux de données avec la chronologie historique proposée sur la base des textes par Walter Salaberger et Ingo Schrakamp, puisqu'alors la date médiane de 2310, déterminée comme point de départ de l'épisode aride dans l'archive climatique, correspondrait à la première décennie du règne de Sargon, selon ce compute-là. Donc l'époque de la grandeur d'Akkad, pas celle de son déclin. Mais là encore, les apparences sont trompeuses, puisque les dates de Salaberger et Schrakamp ont elles-mêmes une marge d'erreur de plus ou moins 30 ans, et que d'après l'étude de 2018, l'épisode climatique aurait pu commencer 60 ans plus tôt ou 60 ans plus tard que 2310, soit à peu près n'importe quand entre la fin du proto-dynastique et la moitié du règne de Naram-Sin, d'après la chronologie historique. Au final, quand on écrit de l'histoire, il nous faut toujours construire un récit qui rende compte des données. Et il peut être tentant soit d'aspirer, suck in, une variété de phénomènes mal datés vers un événement bien daté, qu'il soit environnemental, archéologique ou historique, créant ainsi une illusion de synchronicité. Soit, à l'inverse, de passer à côté des synchronismes en les étalant, smear, du fait que les dates possibles couvrent une plage tellement vaste que l'événement se retrouve noyé dans le bruit des données. Je reprends ici « suck in and smear », la terminologie du dendrochronologiste Mike Bailey, qui, à l'orée des années 90, nous mettait déjà en garde contre ces problèmes méthodologiques au moment où les datations absolues par le radiocarbone devenaient courantes en archéologie. Donc même avec l'avancée des études paléoclimatiques qui atteignent, encore une fois, des degrés de précision chronologique encore inimaginables il y a 10 ou 15 ans, il reste difficile de corréler de façon fine les données environnementales, archéologiques et historiques pour la Haute Antiquité. Il est possible, grâce à la statistique bayésienne couramment employée pour les datations absolues en archéologie, de restreindre quelque peu le champ des possibles en prenant en compte les autres éléments de l'équation. Par exemple, et par définition, le palais de Naram-Sin à Tell Brak ne peut pas être antérieur à la conquête de la région par les troupes d'Akkad, ni postérieur à la fin de leur présence dans la région. Cela permet d'affiner la datation au radiocarbone d'éléments retrouvés en contexte archéologique. Cependant, de telles contraintes sont impossibles à imposer pour les données issues d'archives climatiques naturelles, comme la formation de stalagmites dans la cave de Gol-Ezard, qui n'est pas reliée à des niveaux d'occupation humaine. On saisit alors le problème du paradigme climatique tel qu'il apparaît dans l'étude de Caroline et al. Même si leurs données paléoclimatiques sont révolutionnaires par rapport à ce dont nous disposions auparavant, L'idée même que le changement climatique a provoqué la chute d'Akkad, qui date des travaux de Weiss des années 90, est tellement prégnante et vendeuse dans l'inconscient collectif qu'ils n'ont pas su ou voulu s'en départir, adoptant par défaut un récit déjà construit, alors même que celui-ci reposait sur des données beaucoup moins fiables. Il y a là un biais de confirmation et donc un raisonnement tautologique. Après tout, sur la base des seules données ici à l'écran, je pourrais tout aussi bien affirmer que le changement climatique a eu lieu au début du règne de Sargon, et a affaibli les États de haute Mésopotamie, sans avoir d'impact majeur sur ceux de la basse Mésopotamie qui dépendaient du cours des fleuves et étaient donc moins sensibles à une baisse subite des pluies, qui aurait pour le coup dévasté l'agriculture sèche du nord, sans affecter l'agriculture irriguée du sud. Dans ce scénario, le changement climatique deviendrait l'allié de l'expansion de Sargon comme il était celui de Gengis Khan plus tôt, et non pas la cause de la chute de l'Empire d'Akkad. Il va sans dire que ce récit n'aurait pas beaucoup plus de valeur historique que celui que j'essaye de démonter aujourd'hui. Donc au final, que peut-on dire de l'événement 4.2K et de son impact en haute Mésopotamie ? La littérature actuelle nous offre des points de vue aussi antagonistes et irréconciliables que celui d'Harvey Weiss, pour qui l'aridification rapide a été la cause d'une vaste disruption sociétale, non seulement en haute Mésopotamie, mais aussi à travers l'ensemble des espaces d'agriculture sous pluie d'Asie occidentale, avec des conséquences, même pour les régions d'agriculture irriguée, comme Akkad. Et d'un autre côté, celui d'Arkadiusz Zoltijak et de Ricardo Fernandez, qui, sur la base d'une étude isotopique de restes humains provenant de Tel Brak, Tel Bari et Tel Arbid, donc trois sites du triangle du Rabour, là aussi où on trouve Leylan, suggère que rien de notable ne s'est passé sur le plan des modes de vie entre la fin du 3e et le début du 2e millénaire avant notre ère. Au final, il faut, je crois, avoir l'honnêteté et la modestie de reconnaître qu'il y a encore bien trop de paramètres qui nous échappent pour tirer des conclusions définitives. Comme le rappelle Mike Hulme, dans l'article que j'avais cité plus tôt, il nous faut naviguer entre les deux écueils du déterminisme, ou du réductionnisme, et de l'indéterminisme climatique. On l'a vu, si un pacte qu'il y a eu, il a été assez différent selon les sites, même au sein de la haute Mésopotamie, et il faudrait une étude fine de chaque situation à l'échelle locale pour pouvoir aller plus loin. J'ai personnellement du mal, mais c'est là peut-être mon propre biais d'historien environnementaliste, à croire qu'un épisode climatique d'une telle ampleur n'ait pas eu du tout d'impact sur une région marginale comme la haute Mésopotamie, en particulier dans ce qui correspond à l'actuelle zone des cultures marginales. Mais je pense qu'il faut se garder de toute généralisation hâtive. Cela dit, j'ai bien conscience qu'une telle prudence n'est pas prête de m'ouvrir les pages de Science ou de Nature. Si la publication de l'archive climatique de Gol-Hésard s'est accompagnée d'un discours sur la chute d'Akkad, celle des spéléothèmes de la grotte de Kunaba, en 2019, a été associée avec un discours légèrement plus complexe, mais relevant toujours du paradigme climatique, sur l'ascension et la chute de l'Empire néo-assyrien au début de l'âge du fer, début du premier millénaire avant notre ère. À dire vrai, et c'est, je pense, un symptôme du poids grandissant du paradigme climatique comme modèle explicatif dans nos disciplines, l'idée de faire du climat la cause première de l'effondrement assyrien n'a pas attendu la publication des données de Kunaba, puisqu'elle avait déjà été proposée par l'anthropologue Adam Schneider et l'assyriologue Selim Adaleu en 2014 dans la revue Climatic Change. Leur argumentaire mêle un discours néo-malthusien avec une approche déterministe du rôle du climat sur les sociétés, ce qui propose très rapidement que le cœur de l'Empire assyrien, le triangle Ashur-Ninive-Arbel, après avoir connu une augmentation démographique dramatique suite aux déportations orchestrées par l'Empire, avait perdu en capacité de résilience lorsqu'une sécheresse massive a frappé la région au milieu du 7e siècle. Cela aurait réduit la capacité de la Syrie à répondre aux chocs extérieurs, y compris la pression ultime exercée sur le cœur impérial par les armées babyloniennes et mèdes. Paradigme climatique assez basique. Une des faiblesses de l'analyse de Schneider et Adelé était de reposer sur une série d'archives climatiques à faible résolution, provenant toutes de régions situées en dehors de Mésopotamie. Donc, selon ce que nous avons vu précédemment, cela ne disait rien de la situation de corrélation de la situation environnementale du cœur assyrien et posait un problème très classique de aspirer et étaler en matière de corrélation entre les données climatiques dont la résolution était au mieux de l'ordre du siècle et les données historiques qui requièrent une résolution de l'ordre de la décennie au minimum. Cela n'empêcha toutefois pas l'article de connaître un succès d'estime dans le monde de la clickbait climate history. Dans un numéro ultérieur de la revue, Arkadiusz Zoltijak, encore lui, a vivement rejeté leurs conclusions, principalement au motif que leur analyse s'appuyait sur des lectures partielles et dépassées du matériel archéologique et textuel. S'en est suivi un droit de réponse assez vif et un article supplémentaire dans Irak, un journal respectable, mais pas particulièrement réputé pour son expertise en matière d'histoire environnementale, dans lequel Schneider et Adaleu réaffirmaient leur théorie en ajoutant de nouvelles données paléoclimatiques, là encore relativement de basse définition. J'ai pas le temps d'entrer dans les détails de la dispute, qui est de toute façon en grande partie obsolète, Mais si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à un article qui devrait paraître prochainement dans la série Studia Raburantia. L'essentiel de ce que je vais développer dans la suite de ce cours aujourd'hui se retrouve dans cet article qui devrait paraître sous peu, j'espère. Donc pour aujourd'hui, je veux m'arrêter plus particulièrement sur la dernière version du paradigme climatique pour l'histoire assyrienne, celle liée à la publication du Spéléothème de Kunaba par Ashish Sinha et ses collègues, pour laquelle Harvey Weiss, Adam Schneider et Selim Adalé sont tous les trois co-auteurs. Donc cette publication a marqué un changement dans le paradigme climatique pour l'histoire assyrienne, sans modifier radicalement le récit général. Un résultat surprenant issu du Spéléothème de Kunaba a été l'identification d'une phase plus humide, entre 925 et 725 environ, culminant avec ce que les auteurs appellent le méga-pluvial assyrien, entre 850 et 740, suivi d'un changement vers des conditions plus arides, entre 740 et 525 environ, culminant en quelques 125 années entre 675 et 550, parmi les plus sèches enregistrées dans l'archive, que les auteurs appellent la méga-sécheresse assyrienne. Donc, si ces nouvelles données, à la fois locales, on est à 300 km de Ninive, c'est relativement proche comparé à ce que l'on avait auparavant, et de bien meilleure résolution que celle initialement utilisée par Schneider et Adalé, confirment l'épisode aride du dernier siècle de la domination assyrienne, elles contredisent en revanche les données des archives non mésopotamiennes qui suggéraient que le premier âge du fer avait connu une tendance à la rédification et maintenant on se retrouve avec un méga pluvial à la place. Ça vous donne une idée des problèmes que l'on peut avoir lorsque l'on essaye de combiner des données de ce genre. Le discours historique associé à ces nouvelles données est résumé par le schéma à l'écran qui provient de l'article de 2019. Le changement climatique est désormais considéré comme un facteur clé de l'expansion de l'histoire assyrienne dès le début du premier millénaire, sur la base d'une corrélation entre le méga-pluvial et l'expansion, les principales phases d'expansion impériale assyrienne, entre 920 et 730, tandis que la méga-sécheresse est vue comme la cause de l'effondrement impérial entre 660 et 600 avant notre ère. Ce nouveau paradigme climatique a commencé à faire son chemin dans les synthèses historiques sur la Syrie, même si dans son récent ouvrage, Eckhard Fram a exprimé quelques réserves, suggérant que le changement climatique aurait été tout au plus l'un des nombreux facteurs ayant joué un rôle dans la chute de l'Empire. Il a souligné d'ailleurs que la phase proprement impériale du développement néo-assyrien a réellement commencé avec le règne de Tiglath-Phalazar III, entre 744-727, ce qui rend plutôt improbable que le méga-pluvial, qui s'est terminé vers 740, ait eu beaucoup à voir avec l'expansion impériale proprement dite. Dans un exercice intellectuel un peu assez proche de celui que j'ai proposé plus tôt pour l'époque d'Akkad, il suggère même qu'au contraire, le renversement vers l'aridité aurait pu être l'une des nombreuses incitations pour les Assyriens à s'étendre au-delà de leur zone de domination traditionnelle, à côté d'une vague d'épidémies au milieu du 8e siècle et de raisons idéologiques bien connues par ailleurs. Fram souligne également les difficultés que la perte des provinces occidentales et de la Babylonie dans la seconde moitié du 7e siècle aurait pu avoir sur la capacité de l'Empire à subvenir à ses besoins en période de plus grande aridité, et mentionne l'existence de crises économiques à divers points entre les années 640 et 620, attestées par les textes néo-assyriens, tout en soulignant que d'autres années au cours de cette période indiquent un retour à des conditions normales, qu'on n'est pas sur 40 ans de crise. Donc bien que les données de la grotte de Kunaba, avec leur haute résolution chronologique, soient moins sujettes à l'effet aspiré et étalé que les études précédentes, les auteurs n'expliquent nulle part comment de tels changements climatiques auraient pu affecter la Syrie. Ce que je vais essayer d'aborder en me concentrant sur les aspects pour lesquels une corrélation entre changement environnemental et activité humaine peut être suggérée, au moins en théorie. Pour des raisons pratiques, j'utilise la division de l'époque néo-assyrienne suivie par le volume de synthèse édité par Eckhard Fram en 2017, selon laquelle la première phase de l'histoire néo-assyrienne peut être divisée entre une période de reconquête, entre les règnes d'Ashurdan II et de Salmanazar III, et une période de fragmentation et de faiblesse royale de l'époque de Shamshi-Adad V à celle d'Ashur-nirari V. Comme souligné par Sinra et al., cette phase hégémonique, pour reprendre cette fois une terminologie de Karen Radner, correspond à peu près au changement de dynamique climatique. Avec le passage d'une phase plutôt aride à la fin de l'âge du bronze, vers une phase humide au début de l'âge du fer, bien installée autour de 925. La seconde phase, que Karen Radner appelle territoriale de l'impérialisme assyrien, peut à nouveau être divisée entre une période de genèse impériale, de Tiglath-Phalazar III à Sargon II, un apogée impérial des successeurs de ce dernier jusqu'à Ashurbanipal, et enfin la chute sous les derniers rois assyriens. De manière contradictoire pour le paradigme climatique, et comme noté par Fromm d'ailleurs, aucune de ces périodes, des plus glorieuses aux plus infâmes du point de vue assyrien, ne s'est produite durant le mégapluvial. Les réalisations souvent célébrées de Tiglath-Phalazar III coïncident à peu près avec le changement de la dynamique climatique et les débuts de la phase aride, tandis que l'apogée impériale de la Syrie correspond quant à lui aux années les plus arides. En comparaison, les dernières décennies de l'Empire assyrien ont été plutôt favorables en termes de précipitations comparées à celles des grandes heures de l'Empire, à l'époque où les Assyriens atteignent les limites du monde connu et conquièrent même brièvement l'Égypte. Donc s'il existe une corrélation entre le changement climatique et le succès ou l'échec de l'Empire, elle n'est certainement pas évidente. Donc, qu'est-ce qu'on peut vraiment dire de l'histoire assyrienne et de potentiels liens avec le changement climatique ? Étonnamment, l'étude de Sinra et al. Ne mentionne pas ce qui, de mon point de vue, offre la plus grande probabilité d'avoir été directement influencé par l'amélioration de l'humidité atmosphérique durant la phase dite hégémonique, c'est-à-dire la politique systématique de colonisation et de remplissage du paysage dans la Jésirée syrienne et le nord de l'Irak, identifiée dans les prospections de terrain. Dans la mesure où l'agriculture de la région dépend principalement de la pluie, ces établissements ruraux auraient grandement bénéficié de conditions atmosphériques plus favorables. Même si l'amélioration climatique n'atteint pas les niveaux connus au pic de la phase humide, les conditions plus humides, le début d'une amélioration des conditions, pourraient même étayer l'affirmation d'Ashurdan II, selon laquelle il a développé l'agriculture en haute Mésopotamie, comme jamais auparavant, dans le cadre de la phase dite de reconquête des territoires assyriens que la Syrie avait perdu à la fin du bronze récent. L'influence du climat me semble particulièrement crédible pour une région du centre assyrien qui est largement ignoré des débats autour du paradigme climatique, à savoir la vallée du Barabour. Dès que les Assyriens reprirent contrôle de la région au IXe siècle, ils construisirent deux canaux massifs de part et d'autre de la rivière pour l'irrigation et pour la navigation à contre-courant. Cela permit une multiplication spectaculaire au cours des 8e et 7e siècles des établissements ruraux qui dépendaient des nouveaux canaux et qui furent peuplés, en partie au moins, par des déportés. Immédiatement à l'est, un bon exemple de colonisation planifiée d'une zone jusqu'alors marginale est représenté par la colonisation de la steppe entre Achour et Dourkatlimou, en lien avec le programme d'expansion célébré par la stèle de Zamaru Tel Rima d'Adad Nirari III, en particulier dans la région du Wadi Hadjidj. Pour information, c'est la photo qui illustre ce programme de cours, le Wadi Hadjidj. L'archéologie a ainsi repéré une occupation néo-assyrienne dans ce bassin alimenté par une série de cours d'eau intermittents et de puits qui contraste fortement avec l'unique site connu pour la période précédente. Donc là, on a vraiment une expansion dans une région aride alimentée de façon artésienne ou par des cours d'eau intermittents pour lequel une amélioration de la pluviométrie fait énormément de sens. Donc ici, l'influence directe du changement climatique peut être suggérée comme déclencheur du programme d'expansion impériale, car des précipitations plus élevées auraient soutenu à la fois le système d'ouette dendritique du Wadi Hadjidj et l'augmentation du débit du Rabour, qui est alimenté par des sources karstiques dépendant de la pluie pour leur réapprovisionnement, et donc une meilleure alimentation des canaux qui eux-mêmes puisaient leur eau au Rabour. Cependant, il ne faut pas non plus être trop déterministe. La colonisation du Wadi Hadjidj a certes commencé au 8e siècle, la phase B de la prospection du Wadi par Pfälzner, donc vers la fin de la phase humide, ici. Et est restée active au 7e siècle, la phase C, lorsque la région a subi les effets durables de la méga sécheresse. De même, les programmes de colonisation liés aux déportations de populations vaincues ont certes commencé pendant la phase humide et la phase d'expansion hégémonique assyrienne, mais ils ont surtout atteint leur apogée durant la phase impériale, sous les Sargonides, et en particulier sous Sennachérib, au plus fort de la sécheresse. Ailleurs, les prospections ne font généralement pas de distinction entre les sous-phases de la période néo-assyrienne, mais les études régionales montrent la multiplication depuis la vallée du Haut-Tigre jusqu'au Balir et au Haut-Euphrate turc de petits sites ruraux dispersés que l'on peut identifier avec les hameaux, les caprous, du recensement de Haran et d'autres textes néo-assyriens. Sur le Haut-Tigre, les politiques impériales de la période tardive, donc de l'époque des Sargonides, sont associées à des colonies rurales de personnes déportées qui ne semblent pas avoir été très prospères, ce qui est intéressant puisqu'elles se trouvent dans des régions relativement humides qui n'auraient pas dû être tellement affectées par l'épisode aride. Et en plus, elles sont en contact du Tigre. Dans le sud Levant, sous domination assyrienne, on a noté des mutations économiques, mais qui semblent avoir été dictées par des décisions de nature politique plutôt que par des changements dans le climat méditerranéen. Donc même si on peut, dans certains cas, suggérer une corrélation entre une expansion en milieu aride et l'augmentation de l'humidité atmosphérique, le fait que ces sites se maintiennent pendant toute la durée de l'Empire néo-assyrien suggère que le seul climat n'est pas la seule variable à prendre en compte ici. Par ailleurs, la transformation la plus radicale du paysage par l'Empire néo-assyrien a été celle qui a touché le triangle Assur-Ninive-Arbel, et plus particulièrement l'arrière-pays des nouvelles capitales établies à Kalrou, Nimroud, par Ashurbanipal II, à Dourcharokin, Khorsabad, par Sargon II, et à Ninive, par Sennachérib. Comme je l'ai rappelé en première semaine, l'urbanisation y a été accompagnée d'investissements massifs dans l'irrigation et d'un marquage du paysage par des reliefs rupestres et des inscriptions. Des déportés ont été amenés de tout l'Empire pour construire les canaux, peupler les villes et cultiver la terre. Contrairement à une vieille idée reçue qui semble sous-tendre la discussion de Schneider et Adali sur le sujet, ces canaux n'étaient pas simplement destinés à fournir de l'eau aux capitales et à leurs jardins luxueux. La télédétection a en effet permis d'identifier de nombreux débouchés qui permettaient la mise en culture de nouvelles terres, non seulement pour les céréales, mais aussi pour la vigne. Le changement climatique ne peut pas être identifié comme un facteur décisif dans cet investissement impérial, puisqu'il n'y a pas de corrélation directe entre les deux. L'investissement dans l'irrigation se retrouve à la fois au début de la phase humide à Nimroud et au début de la phase aride à Dourcharokin et Ninive. En revanche, et c'est quelque chose qui n'est pas pris en compte dans l'étude de Sinra et Hall, il est probable que ces canaux ont pu aider à mitiger les effets de la sécheresse d'après une modélisation de l'apport d'eau dans le système mis en place par Sennachérib, qui est en cours de publication et dont je suis un des co-auteurs. Par ailleurs, il a été suggéré que la mise en valeur de la plaine de Bora au IXe siècle ait pu recourir à l'utilisation de canates, des réseaux souterrains permettant d'amener l'eau de nappe phréatique vers les champs, ce qui aurait encore augmenté la résilience du système. Donc au final, il existe guère d'arguments convaincants pour faire du changement climatique le moteur premier de l'histoire néo-assyrienne, que ce soit son expansion ou son déclin. L'étude de l'implantation dans la région du Wadi Hadjidj suggère même une décorrélation entre les deux facteurs. On l'a vu, la colonisation de la steppe a commencé lorsque les conditions atmosphériques étaient plus favorables, mais le fait le plus notable est qu'elle s'est maintenue jusqu'à la chute de l'Empire. Et ce n'est qu'après, et ce alors même que les conditions étaient devenues nettement moins propices au maintien d'un habitat sédentaire dans cet espace marginal. Ce n'est qu'une fois les structures impériales abolies que la région a été abandonnée. De même, l'étude des dynamiques régionales en Haute-Mésopotamie dans les années qui suivirent la chute de l'Empire assyrien en 610 montre que si l'ancien cœur autour de Ninive et Arbel a été systématiquement dévasté et abandonné, ce ne fut pas le cas de régions pourtant bien plus sensibles au changement climatique, comme le Barabour ou même l'ancienne capitale religieuse Assur. Clairement, c'est le choix politique des nouveaux maîtres mèdes et babyloniens qui explique l'abandon de certaines régions du désormais ex-empire assyrien et pas d'autres, et pas le climat. Pour conclure, je voudrais attirer votre attention sur un élément du paradigme climatique et de la climate history qui me paraît particulièrement pernicieux, à savoir le choix de mots chocs tels que méga-sécheresse et méga-pluviale, qui, en insistant sur le caractère hors norme des épisodes climatiques, rend plus crédible l'idée d'un lien de causalité entre changement climatique et histoire politique. Sinra et Hall vont même plus loin, puisqu'ils affirment que, dans les données du spéléothème de Cunaba, le méga-pluvial des années 850-775 représente une augmentation de 15 à 30% de la quantité de précipitations en saison froide par rapport à la période 1980-2007 de notre ère, dans les données de leurs stalagmites, évidemment. On compare ce qui est comparable au sein du même système. Le problème, il n'est pas dans les données, il est dans leur choix. Parce que le point de comparaison moderne, 1980-2007, comprend précisément les années les plus touchées par le réchauffement climatique d'origine anthropique dans l'archive. Et donc, la période humide est évaluée comme méga, 15-30% plus humide, par comparaison avec la seule vraie méga sécheresse que la région ait réellement connue depuis 4000 ans, celle liée au changement d'origine, au changement climatique d'origine anthropique. Et le spéléothème ayant été recueilli en 2007, ça ne compte même pas la dernière décennie et demie, voire quasiment bientôt 20 ans, qui est encore plus sèche. Il en va de même pour la méga sécheresse des années 740-550. Les auteurs déclarent que la sévérité de la méga sécheresse assyrienne est comparable en magnitude, à la sécheresse postérieure à 1980. Mais en fait, cela est contredit par leurs propres données. Comme le montre clairement le graphe à l'écran, où j'ai placé en regard les données des spéléothèmes de Cunaba pour la méga sécheresse assyrienne, je mets des guillemets, c'est leur expression, et pour la période commencée avec la révolution industrielle dans les années 1880, il apparaît très clairement que la prétendue méga sécheresse n'est en rien comparable avec les dernières décennies de l'archive climatique, celles-là même qui ont été utilisées comme point de comparaison pour le méga pluvial. Celles-ci sont beaucoup plus arides. Il n'y a pas photo ici. Hein. En fait, les épisodes les plus dramatiques de la période néo-assyrienne sont plus correctement comparés aux conditions qui prévalaient vers le milieu du XXe siècle de notre ère et non aux dernières décennies que l'on connaît dans la région. Pourquoi c'est important ? Parce que le cerveau humain a besoin de points de comparaison fiables pour donner un sens à des événements relatifs, tels que les changements d'humidité atmosphérique. Lorsque nous évoquons le climat du Moyen-Orient, nous pensons toujours à la région telle que nous la connaissons. Mais contrairement à ce que suggèrent les auteurs de l'étude de 2019, la méga sécheresse assyrienne n'équivaut pas à la période d'aridité dramatique des 25 dernières années, déclenchée par l'accélération du changement climatique anthropique, mais plutôt, s'apparente plutôt à la situation des années 1950-1970 de notre ère. Une période qui est, il est vrai, historiquement aride par rapport au climat de la région au cours des 4000 dernières années. On est à 1,5 point d'écart type de variance par rapport à la moyenne. Donc c'est une période qui est historiquement aride, mais c'est aussi celle que nous utilisons comme cadre de référence lorsque nous parlons du climat de la région d'aujourd'hui. Toutes les études que vous allez lire sur le Moyen-Orient prennent les données des années 50-70 comme la référence du climat. Donc en fait, la méga sécheresse assyrienne, c'est ce que vous trouvez dans n'importe quel livre de géographie sur le climat du Moyen-Orient, avant le changement, l'accélération du changement climatique anthropique, parce qu'évidemment, on y est déjà là. Mais là, les dernières années, on voit vraiment que les choses s'accélèrent. Donc, d'une manière générale, le climat au cours de l'histoire de la région a eu tendance à être plus favorable que celui qui a été mesuré depuis le milieu du XXe siècle de notre ère. Et l'épisode aride du 8e au 6e siècle correspond à ce que nous considérerions comme un climat normal, d'après les études climatologiques modernes dont nous disposons. Donc l'emploi d'une terminologie comme méga-sécheresse ou méga-pluviale suggère des situations climatiques bien plus dramatiques que ce qu'elles furent en réalité, et je pense qu'il est de notre devoir de les éviter. Je vous remercie de votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.